Alors j'ai raté le début, excusez-moi, parce que j'arrivais pas à télécharger l'attestation. Ça marchait plus sur mon portable, je ne pouvais pas partir sans ça, et j'ai mis 10 minutes. Donc pardon de vous avoir fait attendre, merci tard de m'avoir attendu. Du coup j'ai raté tes mots d'introduction. Mais je n'ai pas raté l'essentiel des textes. Très difficile pour moi de... Et ça rejoint ce que tu disais de choisir un thème aujourd'hui, parce que c'est tellement particulier. On est juste là par dérogation spéciale, pour une fête qui ne nous concerne pas. Si on tombait sur un policier un peu fort en théologie, il nous dirait « Non, non, ça ne marche pas pour vous, ça ne marche que pour les catholiques. » Et puis on ne se reverra pas avant je sais combien de temps, hein, c'est bien ça. Donc c'est en même temps un truc de fermeture et en même temps quelque chose qui passe dans les interstices. Alors, je vais vous parler de ces interstices-là, justement, de ce qu'est aujourd'hui, de ce que nous vivons. Et à partir de ça, j'aimerais lire avec vous quelques extraits qui ne sont pas très originaux, mais qui peuvent peut-être, en cette journée particulière, prendre un aspect un peu différent. En fait, il fallait vraiment avoir envie de venir au culte ce matin. Bravo à ceux qui l'ont fait. Parce qu'entre le Covid, les attentats, le confinement, l'automne qui est là, le tremblement de terre en Turquie, les problèmes internationaux, enfin, il faut vraiment avoir la capacité de se désengager du monde environnant pour se dire, et quand même, il y a une place là-dedans pour Dieu et pour le culte, alors que tout pourrait nous pousser, avec de bonnes raisons, hein, je le dis à ceux qui sont chez eux, s'ils nous regardent, de rester à la maison. Ce n'est pas du tout un jugement, évidemment. Ne serait-ce que le coût de l'attestation. Enfin, tout ça est extrêmement lourd, et vous vous en rendez compte, et pourtant nous sommes là ce matin. Et j'aimerais savoir pourquoi nous sommes là ce matin, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Que ce soit ici ou derrière l'écran, évidemment. Comme je le disais en préambule, en plus nous sommes là par effraction, puisque c'est grâce au fait que c'est la Toussaint que le gouvernement a décidé que, exceptionnellement, les fidèles pouvaient se rendre dans les lieux de culte pour fêter ce jour-là. Donc j'aimerais juste parler rapidement de ce qu'est la Toussaint, pas pour faire un cours d'histoire, mais parce que ça me permet de nous remettre dans l'ambiance particulière d'aujourd'hui. Et ça va introduire le texte que j'ai envie de vous lire. Donc, on appelle ça à tort le jour des morts. En fait, ce n'est pas le jour des morts, c'est demain. Le jour des morts, dans la tradition catholique, c'est demain que normalement on va sur les tombes et qu'on s'occupe de nos morts, et qu'on prie pour eux, qu'on fait des messes pour le repos de leurs âmes, etc. Aujourd'hui, c'est le jour des saints, donc le mot Toussaint. Au sens catholique du terme, c'est-à-dire... c'est une fête qui a été créée qu'au 7e siècle, 6e siècle, enfin dans ces eaux-là, on n'est pas un siècle près, en l'honneur de tous les saints du panthéon catholique. Les saints, c'est-à-dire tous les gens qui avaient fait quelque chose dans la foi, qui était remarquable et qui avait été élevé au rang de saint par les autorités catholiques. Et non pas comme nous, le mot saint que nous prenons au sens biblique du terme, c'est-à-dire que dès que nous sommes... convertis avec notre Seigneur, nous sommes tous saints avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est donc, c'est vraiment, contrairement à Noël ou à Pâques, c'est vraiment une fête typiquement catholique, c'est pas du tout une fête biblique, c'est pas considéré comme une fête protestante. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que, en fait, cette fête, il y avait. En fait, il y a un rapport avec les protestants. Qui est la date d'avant du 31 octobre. Comment vous dire ça rapidement? Sachez qu'il y a à Rome une très belle église, pour ceux qui ont visité, qui s'appelle le Panthéon de Rome. C'est une espèce de basilique extraordinaire avec une coupole magnifique, la plus grande coupole du monde. Et c'est le plus ancien bâtiment qui soit gardé dans cet état-là, qui était avant. Le Panthéon de Rome était dédié à tous les dieux de toutes les religions, de tous les peuples, qui avait été pris par les Romains et on les mettait tous dedans. C'était une espèce de fourre-tout général où tous les dieux étaient réunis. Et au 7e siècle, l'Église catholique, elle va, puisque évidemment, tout le monde est devenu l'empereur, enfin il n'y a plus d'empereur à cette époque-là depuis longtemps, mais disons que l'Église catholique va prendre ce panthéon et va en faire une église qui va être dédiée aux martyrs de la foi catholique. Donc c'est toujours intéressant de se dire que cette fête-là a été construite en fait, ne serait-ce que architecturalement, sur un bâtiment qui était d'abord dédié aux dieux païens. C'est donc une fête qui nous pose à nous un gros problème parce qu'elle stipule que nous avons encore un rôle à jouer avec les morts, que nous pouvons aider les morts à franchir le cap de la vie éternelle, que les sortir du purgatoire, et que les morts ont un rôle à jouer avec nous par les prières qu'ils peuvent faire. Enfin, tout ça, évidemment, peut nous heurter, tellement nous heurter que c'est la veille d'une Toussaint, le 31 octobre 1517, qui est devenu le jour symbolique de la naissance du mouvement protestant. Puisque ça serait ce jour-là que Martin Luther aurait placardé ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Ça a été ça le début. Alors on n'est pas très sûr de la date, mais qu'importe, symboliquement, c'est ça qui a été marqué. Puisque, vous le savez sans doute, le pape de l'époque voulait construire l'immense basilique Saint-Pierre. Il avait besoin d'argent. Et donc, il avait dit à tous les catholiques, à tous les chrétiens, vous pouvez payer votre indulgence, c'est le mot, pour votre vie future. Après votre mort, si vous payez, ben Dieu sera reconnaissant de ce que vous avez fait et vous serez moins châtié, vous aurez plus de chances de rentrer dans l'éternité, grossièrement parlant. Évidemment, Luther s'est élevé contre ça et ça a été le début de la réforme protestante. Mais c'est, par rapport à nous, c'est intéressant de voir que ça s'est fait la veille d'une Toussaint. Il avait fait ça exprès puisque c'était une église qui était bondée avec des gens qui étaient venus s'acquitter d'indulgence et vénérer des reliques. Alors vous allez me dire pourquoi je vous parle de tout ça. Parce que cette fête qui est de tous les saints, qui est devenue en fait la fête des morts en même temps, puisque c'est le 1er novembre qu'on va mettre les fleurs sur les tombes, etc. C'est la place de la mort dans notre société, mais surtout dans notre religion. Et cette place de la mort, elle est, dans sa vision catholique, elle est quand même très forte, elle est vraiment à côté de la plaque par rapport à ce qu'en dit la Bible. Et c'est pour ça que quand je disais « Pourquoi je suis là ce matin ?» Je ne suis pas là à cause de la mort, je ne suis pas là pour penser à, même si j'y pense évidemment, mais pour penser aux gens qui sont morts, qui étaient proches et qui me manquent évidemment. Je suis ici avec vous parce que je veux fêter la vie, parce que je veux fêter l'espérance, parce que je veux fêter tout ce que Jésus nous donne en termes d'énergie vitale et non pas en termes d'énergie mortuaire. Et tout l'environnement d'aujourd'hui, dont je vous ai parlé, le Covid, le confinement, les guerres, etc., c'est extrêmement mortifère, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement pesant, douloureux, et ça pourrait nous inciter à nous replier sur nous-mêmes, et essayer de se protéger de tout ça, de fermer les oreilles, les yeux, pour essayer de survivre à cette ambiance extrêmement morose. Mais si nous sommes là aujourd'hui, ce matin, c'est parce que nous avons fait la démarche contraire. Dans tout cet environnement mortifère, Nous croyons à la vie, nous croyons à ce que Jésus nous donne d'espérance et d'un avenir qui n'est pas au fond de la tombe et au fond des virus et au fond des armes, mais qui est dans le ciel au sens symbolique avec lui. Voilà pourquoi on est là ce matin. Et moi, quand j'ai pensé à tout ça, j'ai évidemment eu en tête le fameux chapitre 8 de Matthieu, à partir du verset 22. Et là, je ne pense pas que ça va vous étonner que je lise ce Ah, j'avais une Bible et je l'ai oubliée. Ah oui, je peux prendre celle-là, oui. Merci. Donc, on ne va pas le lire tout de suite. Ne le mets pas tout de suite. Je vais vous remettre dans le contexte. Vous savez, c'est le moment où Jésus est à Capharnaüm, passe d'une rive à l'autre, est suivi par toute la foule. Il fait beaucoup de miracles, où il y a la multiplication des pains, etc. C'est le grand moment de l'aventure de Jésus au milieu des gens du peuple avec qui il donne le maximum de l'amour qu'il a pour les gens. Ne mets rien, surtout, s'il te plaît. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir cette phrase qui m'intéresse énormément. Donc on est dans ce contexte. Imaginez donc une foule qui le suit, tous les miracles qui ont lieu, les malades qu'on lui apporte. Le monde, pendant quelques jours, quelques semaines, est bizarre et différent, puisqu'il y a cet homme qui fait des choses incroyables, qui fait que les gens sortent de chez eux, que les gens partent un certain temps, vont loin. Du coup, on a des problèmes pour les nourrir, etc. Ça, vous le connaissez. Il y a vraiment un monde bizarre, un monde différent créé par Jésus. À ce moment-là, il y a une effervescence, il y a de la foule. Et remettons-nous dans le contexte comme il serait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé, au point qu'à un certain moment, Jésus a besoin de s'enfuir, de s'isoler, parce que cette foule le presse et il faut qu'il prenne du recul. Et donc, Jésus qui voit et c'est là qu'on va être au Matthieu 8, verset 21, je pense, dans ces eaux-là. Alors, donc il y a tous donc les guérisons diverses. Jésus, donc, au verset c'est quoi ce truc, 14, 13. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre parmi les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Évidemment, c'est cette phrase qui m'intéresse. Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais il faut la remettre dans son contexte. Essayons de le voir de façon vraiment réaliste. Comme une scène de cinéma. Il y a cette foule qui est là, qui prêche Jésus, il y a des miracles, il y en a eu, on lui en redemande. À un moment, il dit: il faut que je me mette de côté, parce que là, ça devient plus tenable. Il faut que je souffle, il faut que je m'isole. Donc, il part de la foule et il doit aller sur la rive, donc sur cette fameuse barque qui va le mettre hors de la foule. Et donc, il part avec ses disciples, il marche, la foule évidemment qui le suit, on peut imaginer ce film tourné avec une caméra sur l'épaule qui suit exactement les protagonistes de cette affaire. Une espèce de marche rapide où les gens crient « Jésus !» etc. Pam, 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 pam. Et tout en marchant, il y a une personne qui vient vers lui et qui arrive à lui dire rapidement « Je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus n'a pas le temps de faire des paraboles, n'a pas le temps de faire des grandes déclarations parce qu'il est en train de partir, de marcher, peut-être soutenu par ses disciples comme des gardes du corps qui essayent de l'exfiltrer par rapport à cette foule nombreuse qui en veut de plus en plus. Il a juste le temps de lui dire: les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. On peut supposer à ce moment-là que l'homme à qui on a répondu ça n'est pas allé plus loin sa requête. La caméra continue, il a fait quelques mètres de plus, et cette fois-ci c'est un de ses disciples qui lui pose une question dans le mouvement. Juste avant de monter dans la barque, il dit: « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus lui dit: « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » On peut supposer, lui, qu'il a suivi Jésus, qu'il n'a pas été enterrer son père, puisqu'il dit que c'est un de ses disciples, et ensuite on sait que les disciples le suivent. C'est intéressant de voir ces deux déclarations devant ces deux personnes qui, dans l'urgence, disent quelque chose d'extrêmement instinctif, d'extrêmement rapide. Ce n'est pas un discours réfléchi comme le serment sur la montagne, comme d'autres choses. C'est dans l'action, je te suivrai de partout. Laisse-moi juste enterrer mon père et je reviens. Non, non, on est tout de suite dans une immédiateté qui fait que les réponses de Jésus sont brutales, sont précises et ne laissent pas de place à une interprétation mensongère. Il faut bien dire que moi, je suis ces deux personnes à la fois. Je suis en même temps celle qui dit « j'irai partout où tu iras » et qui en même temps dit « Seigneur, laisse-moi un peu de temps, j'ai un truc à faire qui est important ». Cette espèce de marche avant et de marche arrière qu'on a dans notre foi, dans notre manière de vivre notre relation avec Jésus, qui est en même temps, je suis complètement avec toi, mais d'un autre côté, si je pouvais me retirer un peu, ça me ferait du bien, parce que je n'arrive pas à tout suivre. Reprenons la réaction numéro 1. Quand je dis « Maître, je te suivrai partout où tu iras », quand je dis ça, quand lui dit ça, quand nous disons ça, nous le considérons comme notre boussole, comme notre phare, un peu comme notre général de Gaulle, c'est-à-dire qu'il est là, devant tous les problèmes qu'il y a partout, on a une figure qui se lève et qui nous donne un repère, une voie à suivre. Donc on va le rejoindre à Londres, on va devenir résistant avec lui et on pense que du coup notre vie va de nouveau avoir une ligne, une trace, quelque chose qui semble cohérent. Comme aujourd'hui, dans tout ce qu'on vit autour, on a du mal à savoir exactement quelle est la piste exacte que l'on doit suivre. Donc en se mettant près de Jésus, on se dit, lui au moins, il va nous donner la bonne piste, la bonne boussole, le bon cap à tenir. Sauf que la réponse est d'accord, viens, mais je te préviens, si tu veux faire de la résistance avec moi, tu vas devenir un clandestin, tu ne pourras plus voir ta famille, il va falloir que tu bouges tout le temps, que tu te caches, on risque d'être fusillé si tu es pris par les Allemands, aurait dit de Gaulle. Donc voilà, Jésus nous dit la même chose. Tu viens, tu ne vas pas te reposer. Moi, je peux me reposer nulle part. Toi, ça sera pareil. Donc, super que tu sois dans l'envie de m'accompagner et de me suivre partout, mais c'est un chemin très difficile. Première réaction, c'est évidemment de reculer par rapport à cette réponse que nous donne Jésus par rapport à notre acte de foi qui est magnifique. Je viens partout. Et lui nous dit, il n'y a pas de problème, mais sache que ça, ça, ça et ça. Et évidemment, ceci, et dans nos vies, on le voit, nous pousse à certains moments à peut-être pas aller du coup sur la barque avec lui et à vouloir rester sur le bord de la berge parce que ce qu'il nous demande est un peu trop fort, un peu trop violent. Un autre de ses disciples va dire « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Et Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Alors, quand je vais dire à Jésus, parce que c'est moi qui le dis, comme vous le dites, « Laisse-moi enterrer mon père. » Au-delà de l'aspect factuel, quelqu'un de ma famille est mort, il faut que je fasse quelque chose. C'est arrivé une fois, on jouait une pièce en Hongrie. On était parti jouer un immense voyage, un truc très très lourd, il y avait 10 comédiens, enfin, tournée de 3 semaines, c'était un truc qu'on préparait depuis 1 an. On arrive en Hongrie, et le jour où on pose le pied, la veille de notre première représentation, coup de téléphone, la mère d'une de nos comédiennes venait de mourir. Évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris un avion en sens inverse, et elle est repartie. On a dû faire toute la tournée en se débrouillant sans elle, enfin tout ça était compliqué. La question ne s'est même pas posée de savoir si elle devait repartir ou pas. C'était évident. Là, quand on dit cette phrase à Jésus, qui n'est pas une phrase bénigne, il ne dit pas « je te laisse, je vais acheter du sel, c'est « laisse-moi enterrer mon père », on donne la priorité à ce qu'on croit être la vraie vie. La mort, c'est la vraie vie, quelque chose d'important. Donc c'est quelque chose qui va nous rassurer, de dire « je suis avec toi, mais là j'ai quand même une excellente raison de ne pas y être complètement ». Puisqu'il est question de mort, et pas de n'importe quelle mort, de la mort de mon père, qui renvoie à la loi, tu honoreras ton père et ta mère. Donc, tout ce que je demande comme passe-droit, comme attestation de déplacement est tout à fait valable et validé. Je suis dans les clous moraux, je suis dans les clous de tout ce que le monde va penser autour de moi. C'est bien, c'est un homme bien, il se retire un peu pour aller faire son devoir de fils. Mais dire à Jésus « laisse-moi enterrer mon père », c'est en fait le tenter. C'est Marthe et Marie qui se plaignent auprès de lui en disant que s'il n'était pas parti, leur frère ne serait pas mort. « Laisse-moi enterrer mon père », c'est vouloir remettre Jésus dans le corset de la loi, de l'ancienne alliance. « Laisse-moi enterrer mon père », c'est faire rentrer Jésus dans le moule de la bienveillance, du New Age, de la guimauve, de Super Bouddha. C'est-à-dire, évidemment, Jésus est gentil, il est bon, il va s'apitoyer sur ma peine, il va être d'accord que je me mette un peu de côté pour aller faire mon travail de piété filiale. « Laisse-moi enterrer mon père », c'est le refus de faire le grand pas de la foi. C'est « je veux bien te suivre », puisqu'il a été dit juste avant « je vais te suivre jusqu'au bout où tu iras », mais à un certain moment, je ne le fais pas complètement, parce que, au fond de moi, je vais avoir une trouille fondamentale de quelque chose qui me fait peur, et je m'accroche à une excellente raison, car c'est une excellente raison d'aller enterrer son père. Quelle est la réponse de Jésus? Et c'est celle qui nous a guidés depuis le début de cette petite réflexion. Jésus dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Alors, ça a été très très commenté, cette phrase évidemment. J'ai absolument pas la prétention d'apporter un éclairage nouveau. Je dis simplement ce que j'en pense. Avec tout ce que j'ai pu lire et entendre et avec ce que je peux réfléchir et ce que je connais de la parole de Dieu. C'est évidemment l'heure du choix. Dire une réponse comme ça, ça veut dire avec moi il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de en même temps. C'est absolument, complètement non négociable. Tu me suis, alors suis-moi complètement. On ne va pas commencer à tergiverser sur des arguties diplomatiques, savoir si on peut, si on ne peut pas, si on a le temps, etc. À un moment, la relation avec Jésus, elle doit nous donner le sentiment que ce n'est pas nous qui dirigeons, c'est lui qui dirige et c'est lui qui fixe les règles du jeu, même si certaines de ces règles du jeu peuvent nous paraître extrêmement difficiles. Alors, vous vous souvenez dans Luc 9, 61. Alors, il est intéressant de voir que Luc reprend ces deux épisodes de la personne qui veut le suivre partout, puis la réponse de Jésus, et celle de laisser enterrer mon père. Il le reprend, mais alors pas du tout dans le même contexte. Ça a été un peu déconnecté du contexte qu'il y a dans Matthieu. Alors, ça nous donne une bonne leçon aussi sur ne pas suivre de façon absolument formelle et au millimètre près la parole de Jésus, la parole de la Bible en tant que telle. Ce qui est intéressant, sa vérité, elle est dans ce qu'elle raconte, elle n'est pas forcément dans la forme comme elle le raconte. Parce que là, il y a évidemment les mêmes anecdotes qui sont racontées dans deux contextes totalement différents. Donc Luc a dû faire un espèce de... a pris... Ces histoires qu'on lui a racontées, il les a ramenées dans un contexte de montée vers Jérusalem. Matthieu, et vu le contexte, ça semble plus logique que c'était prononcé dans le moment où il y a toute cette foule, etc., et qui va dans la mer. Toujours est-il que ce qui m'intéresse dans cette histoire de Luc, c'est que Luc rajoute un troisième élément aux deux premiers dont je viens de vous parler. Il dit, un autre dit, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Donc c'est une troisième mise en demeure de Jésus à ceux qui veulent le suivre. Si tu regardes en arrière, tu ne peux pas être complètement avec moi dans le royaume que je veux t'offrir. On voit bien que ce que nous propose Jésus n'est pas raisonnable du tout. Refuser qu'on aille enterrer notre père pour rester avec lui, c'est mettre en fait dans le même sac les vivants et les morts, mais quand ils ont refusé Dieu. C'est ça qui est intéressant dans cette phrase, et je ne vous apprends rien, « Laisse les morts enterrer leurs morts », il va évidemment faire allusion au fait que ces personnes, les morts, ce sont les morts qui sont encore vivants, qui ont donc refusé la parole de Dieu, et qui vont enterrer, c'est ça qui est intéressant, c'est le possessif « leur mort », c'est-à-dire les gens qui sont comme eux, c'est-à-dire les gens qui se sont mis à côté de Dieu, à côté de la vie avec lui, donc les gens qui se seraient, qui refusent en fait la foi et qui, de ce fait, de leur vivant, se mettent du côté des morts. Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est de voir qu'il y a une idée de conséquence. C'est d'abord le suis-moi qui est présent. Et c'est parce qu'il dit « suis-moi » que le sens, que le reste prend sens. Si tu me suis, tu es du côté de la vie, donc tu ne peux plus être du côté des morts, donc de ceux qui enterrent les morts. Il ne s'agit pas de renier le fait de donner une sépulture à ses proches. Il s'agit simplement de redonner un ordre de priorité à ce que l'on veut dans notre existence. Est-ce que c'est la vie qui prend la première place? Est-ce que c'est la mort qui prend la première place? Les morts qui enterrent leurs morts, c'est la mort qui domine. Suis-moi, ça veut dire moi j'ai la vie. Donc une fois que j'ai la vie, tu ne peux plus perdre ton temps ou te mêler à ceux qui sont de la mort. Et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement drôle que nous on soit réunis aujourd'hui grâce à la Toussaint. Parce que dans beaucoup d'endroits, il va être question aujourd'hui de la mort, et nous on est ici parce qu'il est question de la vie, et c'est ce que nous dit Jésus, suis-moi, ici, là où on est, et partout pour les gens qui partagent notre foi, et laisse les morts enterrer leurs morts. C'est ce suis-moi, il trace la frontière, le gouffre entre les deux attitudes vis-à-vis de Jésus. Il n'est plus de question de Toussaint, de purgatoire, d'indulgence, de peut-être, d'ajustement. C'est noir ou c'est blanc. Suis-moi ou va enterrer les morts avec les morts. Cette phrase, c'est « laisse les morts enterrer leurs morts » et « suis-moi », c'est abandonner nos propres cadavres personnels, tous ceux qu'on traîne avec nous. Si tu me suis, tes morts à toi qui sont dans ton cœur, tes faiblesses, tes fragilités, tes doutes, tu les laisses de côté. Tu ne peux pas les prendre avec toi sur le chemin que je te montre. Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts, c'est quitter tout ce qui est de l'ordre de nos peurs, de l'ordre de nos doutes, parce que la loi du grand nombre qui va enterrer leurs morts, c'est extrêmement rassurant, puisque nous sommes de ceux qui sont du côté de la minorité. Quoi qu'on dise, on est minoritaire. Et on a très envie d'être dans la majorité. C'est toujours extrêmement plus soulageant. Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. C'est venir ce matin à ce culte. Et ce, malgré tous les morts qui nous cernent, qu'ils soient le Covid, les attentats, le confinement, l'automne qui tombe, les tremblements de terre, les problèmes internationaux, tout ce que vous voulez. C'est leur mort à eux. On doit faire avec. Mais ils ne nous atteignent pas dans le « suis-moi ». Et tous vous, quand on a tous pris nos petites voitures ce matin, etc., si on est venu ici, c'est parce qu'au fond de notre cœur, il y avait ce « suis-moi » qui résonnait, et dont on sait qu'il est plus fort que tous les morts qui nous entourent, qui nous enterrent, j'allais dire, en mauvais jeu de mots, et qui donnent un sens morbide à leur existence, mais pas à la nôtre. C'est ça qui fait que c'est pour ça que nous sommes chrétiens quoi qu'il arrive et que quelles que soient les méthodes qu'on a trouvées, mettre une caméra, faire des vidéos trucs, etc., la lumière est toujours allumée, elle va toujours être branchée. Parce que ce « suis-moi », il résonne dans notre cœur de façon extraordinaire depuis notre conversion. Et même ceux qui ne sont pas convertis, ils entendent ça à travers nous. Ce « suis-moi » qui peut donner une telle force, une telle puissance. Alors ce qui est intéressant, comme il dit, suis-moi, eh ben, on va voir où est-ce qu'ils vont. Et c'est la suite, c'est donc Matthieu 8, de 23 à 27. Alors c'est cette fameuse barque que j'ai déjà mis, et plein d'autres, à toutes les sauces, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est adaptable à plein de compréhensions. Donc, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues et lui dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent. Nous rentrons dans la barque, nous l'avons suivi. Pas comme le premier scribe qui a sans doute parti quand on lui a dit « je n'ai pas le moindre endroit pour me reposer ». Donc il a dit « suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts, viens avec moi ». On y est, dans cette barque. Ça tombe bien, vous avez déjà été en bateau, le bateau c'est le pire du confinement. Là on est en plein dedans. Quand vous êtes en bateau, alors dans une barque encore plus, on est totalement confiné. Je déteste le bateau à cause de ça, je trouve ça épouvantable. On est promiscuité, aucun échappatoire, on est dans un espace restreint, on dépend du vent, du moteur, des autres, on n'a aucune autonomie personnelle. On est dans un espace où on doit faire attention à tous. Au bout d'un certain temps sur un bateau, je vous promets que les gestes barrières, la distanciation sociale, ils se mettent en place tout seuls. Parce que chacun n'a qu'une idée, c'est de se planquer, d'avoir son petit espace tranquille, pour aller, on n'a pas besoin d'attestation pour se déplacer, chacun sait que les toilettes, c'est chacun son tour, l'autre sont à 2 mètres, que, enfin tout est pour aller se laver, chacun se cache. Enfin, il y a un mode de vie qui se met en place assez rapidement parce que le confinement est tel qu'on est forcé de se plier à des règles qui se mettent en place toutes seules pour que ça soit vivable. On est dans cette barque. Et on y est au sens propre, puisqu'on est confiné, donc on va être comme des couillons quand on va rentrer. On ne pourra pas faire ce qu'on veut, on ne pourra pas sortir, on sera surveillé. Il faudra faire attention à plein de choses. Et en plus, c'est marqué, il y a la tempête autour. Ça tombe bien, parce que non seulement on est confiné, mais il y a la tempête, tout ce que vous voyez, les attentats, les... Enfin, c'est incroyable. On dirait qu'en ce moment, tout est là pour que... pour qu'on soit stressé de toutes parts. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas un échappatoire où on puisse dire « Ah, ça va souffler, dès que ça va être mieux, paf, il y a quelque chose qui nous tombe sur le coin de la tête. » Et à ce moment-là, on se dit « Mais quand est-ce qu'on va accoster de l'autre côté? Quand est-ce que la tempête va se calmer ?» Alors là, évidemment, on panique, c'est marqué. Lui, il est avec nous dans la barque et il dort. Donc ça... C'est tellement simple que je n'ai même pas besoin de l'expliquer. Dans cette fichue barque qui est notre vie d'habitude, mais là qui est vraiment réduite à notre confinement actuel, n'oublions pas qu'il est avec nous, puisqu'il nous a dit « suis-moi » et qu'on est monté sur cette fichue barque. On a accepté ça. N'oublions pas qu'il est là. Et il est là, en plus il dort, il est tranquille. Et quand on aura besoin de lui, on va le réveiller, et il va nous aider, il va calmer la tempête dans nos cœurs, il va... À un moment ou l'autre, comme la prière a été faite, sans doute calmer la tempête autour, ça on ne le maîtrise pas. Mais dans notre confinement actuel, qui est non seulement symbolique, mais réel, il est avec nous. Parce que son ordre « suis-moi », on l'a accepté à un moment de notre existence. Et qu'on a laissé tomber toutes les petites morts qui pouvaient être des ancres qui nous retenaient au bord. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il est avec nous? Parce que d'accord, il est avec nous dans la prière, etc. Mais bon, à un moment, on aimerait bien aussi qu'il puisse vraiment être avec nous comme il est là. Eh bien, on va retomber sur la fameuse Toussaint. Parce qu'il est là par tous les petits saints que nous sommes et qui veillons les uns sur les autres. Et moi, je peux vous le dire, j'ai été malade du Covid, vous le savez. C'est moi qui ai fait fermer de l'église. Première fois que j'ai un tel pouvoir, je fais fermer une église. C'est génial, hein? Je suis très fort. Je m'excuse, hein, mais bon, je ne le savais pas, c'est vraiment pas de ma faute, j'ai pris toutes les précautions. Par la grâce de Dieu, je vais bien, je rassure, hein, le Covid, 99,80% des cas, c'est pas grave du tout. Hein. Faut juste pas tomber dans 0,002 où en effet c'est très grave. Mais J'ai quand même eu des symptômes, etc. Et j'étais seul, seul chez moi, pour ceux qui connaissent, dans la montagne. Et c'était terrible, c'était bien pire que le confinement. Parce que le confinement, tout le monde est à l'arrêt. On se dit, bon, ben, ça fait partie du jeu. Mais là, j'étais seul et j'entendais la vie autour de moi, les gens qui travaillaient, etc. Parce qu'il n'y avait pas encore le vrai confinement. Et moi, j'étais isolé, retiré, seul à l'arrêt quand les autres vivent. Une vraie petite mort. Alors évidemment, j'avais ma Bible, etc. Je lisais, mais à certains moments, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'a donné dans mes moments où j'étais plus mal? Alors, je ne me plains pas, hein, je n'étais pas en train de crever, mais c'était surtout psychologiquement que je n'étais pas bien du tout. Ben, c'est toutes les attentions de mes frères et sœurs. Les coups de fil, Dominique, Tahar, etc. Ils se reconnaîtront, ou les petits messages par mail. C'est ça qui m'a fait dire, alors évidemment j'ai eu des appels de mes frères, de mes sœurs, de ma famille, et je les en remercie. Mais quand vous m'appeliez, quand vous me laissiez un message, dans cette solitude que je ressentais difficile, c'était à chaque fois, et ce n'est pas des phrases en l'air, je vous dis, c'était Jésus qui me parlait. Jésus qui, par la grâce de ces petits saints que vous êtes, me donnait un morceau de sa présence dans ma barque, où j'étais en solitaire, là, comme la troupe du Rhum, la course du Rhum qui vont partir. Et c'est vraiment quelque chose d'important. La présence de Dieu dans ma barque, elle s'est manifestée par les messages de mes frères et sœurs, et à chaque fois, c'était des messages de Dieu. Et ça, je le crois profondément, parce que quand il nous dit « suis-moi », il ne dit pas que « suis-moi ». Je vous ai dit que dans Luc, il reprenait les mêmes épisodes des deux dont je vous ai parlé. Mais c'est intéressant de voir qu'il rajoute quelque chose. Quand son disciple lui dit « Je vais enterrer mon père », dans Luc, il est répondu « Laisse les morts enterrer leurs morts et va annoncer le royaume de Dieu ». Si on colle les deux, celle de Matthieu et celle de Luc, ce qui est commun, c'est « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Matthieu, il dit « Suis-moi ». Et Luc, il dit « Va annoncer le royaume de Dieu ». On colle les deux ensemble, ça donne « Suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts et va annoncer le royaume de Dieu ». Et voilà pourquoi nous sommes là ce matin, absolument, complètement, totalement. Parce que on l'a suivi, on a accepté ce que ça veut dire, on a fait le pas de foi qu'il faut, on a laissé nos morts, avec tous les sens dont je vous ai parlé, et on va à ce moment-là annoncer le royaume de Dieu comme la conséquence, un, de l'avoir suivi, deuxièmement, d'avoir abandonné nos morts, et troisièmement, et du coup la conséquence, c'est qu'on peut annoncer le royaume de Dieu. Et annoncer le royaume de Dieu sans être passé par les deux premières parties de la phrase n'aurait aucun sens. Et quand j'étais dans ma barque et que vous m'avez appelé, vous m'avez annoncé le royaume de Dieu. Moi, je ne suis rien, évidemment, mais c'est tout ce qu'on peut faire pendant ce moment qui va nous guetter, puisque dans quelques minutes, on va se séparer. Il nous restera le téléphone, des choses comme ça. Tout ce qu'on peut faire autour de nous, parce que chacun va être dans sa barque. Alors nous, on a une grande chance dans notre barque, c'est qu'on a Dieu avec nous. On a Jésus qui est là. D'autres seront dans leur barque et ne l'auront pas. Mais nous, comme on l'aura suivi et qu'on aura renoncé à nos morts, on a cette chance et ce devoir d'annoncer le royaume de Dieu. Et on peut l'annoncer de mille façons différentes, incroyables. Et c'est peut-être là que ces temps difficiles avec lesquels j'ai commencé cette prédication, ça peut être des temps magnifiques pour annoncer ce que nous avons, nous, dans notre cœur, depuis qu'on a accepté son « suis-moi ». On a beaucoup de choses à donner aux gens autour de nous, en toute simplicité, avec nos moyens, mais eux, ils disent que c'est une fête des morts et que tout ce qui nous entoure en ce moment est mortifère. Moi, je dis, c'est la vie qui passe partout, des interstices dont je vous parlais au début. Là, on a des interstices. Et plus ils sont petits, parce qu'ils sont petits à l'heure actuelle, plus la lumière qui va jaillir va être encore plus belle pour les gens à voir, parce qu'ils en voient très peu en ce moment, et surtout pas les fausses lumières du monde qu'ils ne peuvent plus voir, puisque tout est arrêté. Suis-moi. Laisse les morts enterrer leurs morts et va annoncer le royaume de Dieu.